100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Massive bang. Smashed in the face.
Which way? Come on. Why we need to get round? Why we get round this way?
And then suddenly a massive flash, a bang, smoke.
Bonjour à tous. Des cris de panique, des sirènes. La ville de Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, a connu l'horreur d'une attaque terroriste hier lundi soir à l'issue d'un concert dans la grande salle de l'Arena où des milliers d'adolescents étaient venus écouter la chanteuse Ariana Grande. Le dernier bilan provisoire fait état de 22 morts et 59 blessés. Gail Flower est universitaire à Manchester. Sa fille de 14 ans était justement au concert hier soir. Elle en est sortie indemne, mais le choc est bien toujours là, comme elle nous l'a expliqué.
Je suis très inquiète parce que, évidemment, tout le monde est bouleversé. Et je me dis, qu'est-ce qu'on va entendre encore comme histoire tragique de familles qui sont complètement en deuil et tristes. Donc, je regarde les nouvelles et je suis très inquiète, voilà.
J'imagine que la soirée hier soir a été très agitée chez vous.
Oui, j'avais emmené ma fille au concert avec son amie et je savais que le concert se terminait vers 10h30. Donc quand j'ai eu son appel, je l'ai pris évidemment tout de suite et c'était la maman de son amie qui devait les récupérer. Et elle m'avait dit qu'elle y serait un petit peu en avance d'ailleurs. Et elle me dit, maman, il y a eu une grosse explosion et on est sorti de la salle, mais on n'arrive pas à trouver la maman de la copine. Qu'est-ce que je fais? Je cours dans quelle direction? Je ne veux pas rester ici, la police est partout. Alors je lui dis, écoute, il faut absolument que tu contactes la maman de la copine. C'est la priorité parce qu'elle saura, elle est sur place, elle saura où est-ce qu'il faut aller. Elle va vous protéger, il faut absolument la retrouver. Et elles se sont retrouvées avec la maman. Elles sont tout de suite parties à la voiture qui était juste à côté. Et elles sont rentrées à la maison vers 23h30, donc à peu près une heure après l'explosion. Ça a été finalement très rapide, très rassurant de les savoir tout de suite en sécurité, dans la voiture, en route pour la maison.
Ce qui est d'autant plus choquant aujourd'hui que ce sont des très jeunes enfants, très jeunes adolescents qui étaient visés. Oui. J'imagine qu'il y avait beaucoup d'amis de votre fille qui étaient au concert.
Oui, elle en avait quelques-unes. Elle les a tout de suite contactées dès qu'elle a été dans la voiture, sur le chemin du retour. Elles ont contacté leurs amis et leurs amis donc vont bien. Mais il y avait énormément d'SMS d'échanger parce que j'avais l'impression que toute l'école était au courant. Hein. Tout le monde s'enquérait de savoir si les autres allaient bien. Il y a des mamans d'enfants qui sont infirmières, qui ont été appelées à l'hôpital d'urgence, donc qui informaient leurs enfants. Donc la nouvelle s'est répandue à une vitesse hallucinante. Toutes les écoles, évidemment, vont sûrement en parler et sont d'une manière ou d'une autre touchées aujourd'hui sur Manchester, oui.
Votre fille a tout juste 14 ans. Elle est dans quel état aujourd'hui?
Alors, elle est assez bouleversée. Je lui ai dit, tu vas à l'école demain. Elle m'a dit, oui, j'y vais. Je dis, bon, j'irai au travail, tu vas à l'école. Et voilà, la vie continue. Je lui ai dit, tu vas probablement avoir du mal à te concentrer en cours, mais t'inquiète pas, ça va être une journée un petit peu différente, bizarre. Tout de suite, l'école est entrée en contact dès ce matin avec moi, parce qu'ils avaient appris la nouvelle. Ils savaient qu'Héloïse, ma fille, était au concert. Et ils m'ont dit qu'ils allaient lui parler, qu'ils allaient s'occuper d'elle. Et je tenais absolument à ce qu'on fasse ce qu'on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire le travail, l'école, et que je n'imagine pas un instant rester cloîtré à la maison.
Est-ce que ça va quand même changer la manière dont on imagine les sorties pour ces jeunes enfants?
Très certainement. Je ne me vois absolument pas, pour l'instant, interdire les sorties. Mais ça sera à ma fille de décider si elle veut sortir, quand elle veut sortir. Il faudra qu'on en discute. Évidemment, je pense que de son côté, ça ne sera plus jamais comme avant.
Au Royaume-Uni, c'est bien sûr l'unanimité pour condamner cette attaque effroyable perpétrée selon la police par un homme isolé, un kamikaze. Un homme de 23 ans a également été arrêté en lien avec cet attentat revendiqué par l'organisation de l'État islamique. La campagne électorale pour les élections législatives qui doivent se tenir dans 3 semaines a été suspendue. Marie Billon, vous êtes à Manchester sur les lieux du drame. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Que dit-on aujourd'hui des conditions de contrôle et de sécurité qui étaient en cours dans la salle de concert ?
Oui, la sécurité est en fait assez critiquée. Elle a été critiquée assez rapidement finalement hier soir, très rapidement après que l'explosion ait eu lieu. Des jeunes gens sur les réseaux sociaux ont estimé que la sécurité n'était pas d'assez bonne qualité. Ils avaient l'impression que les agents à l'entrée fouillaient leur sac uniquement pour vérifier s'ils n'avaient pas de bouteille d'eau et s'ils avaient des bouteilles d'eau pour leur confisquer, mais que finalement ils ne faisaient pas une vraie fouille dans leur sac, une fouille en tout cas efficace, et que donc ils avaient l'impression que donc ce niveau de sécurité laissait à désirer. C'est vrai aussi qu'il y a cette question de l'organisation de la sécurité pour l'instant de la Manchester Arena qu'on ne connaît pas. On ne sait pas par exemple si elle a été modifiée après l'attentat de Westminster qui était, rappelons-le, il y a exactement 2 mois, ou si elle a été jugée satisfaisante. Et puis il y a aussi la question de la sécurité était-elle toujours en place et comment fonctionnait-elle à la fin du concert ? Parce qu'évidemment, vérifier le sac ou vérifier les 21 000 spectateurs qui ont pu rentrer dans cette salle pour le concert, c'est une chose. Mais une fois qu'ils sortent, finalement, y avait-il assez de sécurité à l'entrée pour empêcher finalement l'entrée de nouvelles personnes dans la salle alors qu'il y avait une foule qui sortait ? Peut-être était-il peu compliqué pour quelqu'un de mal intentionné de rentrer à ce moment-là. Pour l'instant, ce ne sont vraiment que des spéculations. Il est aussi possible que la personne soit rentrée avec l'engin et qu'elle n'ait pas été repérée. Pour l'instant, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, mais la sécurité est effectivement un point critique et critiqué sur les réseaux sociaux.
Et Marie, est-il question de relever le niveau d'alerte de sécurité dans le pays, qui est de 4 avant-dernier sur l'échelon sécuritaire et qui avait été relevé lorsque le Royaume-Uni avait rejoint la coalition contre l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie?
C'est un point effectivement que la première ministre Theresa May a évoqué lors de son intervention en début d'après-midi. Elle a estimé que le niveau de sécurité 4 serait revu tout au long de la journée. Elle estimera s'il vaut la peine de le monter au niveau 5. Le niveau sécurité 4 signifie qu'une attaque est probable. Niveau sécurité 5, qu'une attaque est imminente. Donc le changement est quand même très 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 important et la décision de passer de 4 à 5 ne sera pas prise de manière légère. En tout cas, la question de la sécurité évidemment est très, très visible. Ici, à Manchester, près du lieu du drame, il y a un cordon sanitaire assez grand, assez large, qui est fait pour que les policiers puissent faire leur prélèvement loin du regard des gens, notamment, et pour qu'ils aient le plus de terrain à ratisser pour essayer de trouver des indices, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais il y a aussi évidemment beaucoup de policiers qui sont dans la ville, notamment pour assurer les gens. J'ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit qu'en arrivant ce matin, elles ont vu des policiers armés. Ce n'est pas quelque chose dont les Britanniques ont l'habitude au Royaume-Uni, des policiers armés, mais ça les rassurait aujourd'hui. C'est dire à quel point la crainte est forte ici à Manchester et donc la question de la sécurité est aussi bien sûr très présente.
Merci Marie Billon. À Manchester et partout dans le monde bien sûr, des messages de condoléances et de consternation. En marge d'une visite en Cisjordanie, le président américain Donald Trump a déclaré que tant de jeunes personnes innocentes et belles, vivant et aimant la vie, ont été assassinées par ces ratés malfaisants. En France, le gouvernement a donné des consignes pour renforcer la sécurité lors des événements culturels et sportifs. Quant au président de la République, Emmanuel Macron, il a dit son intention de renforcer la coopération européenne antiterroriste.
7 minutes, 7 petites minutes pour conserver sa ceinture intercontinentale. En poussant Rob Beckley, blessé à l'œil, à l'abandon au début du troisième round, Béa Diallo a confirmé tout le bien que la boxe belge pensait de lui. Une victoire qui a enflammé...
Lutter contre la radicalisation et le djihadisme qui peut séduire des jeunes sans repère, c'est l'un des combats que mène le député belge Béa Diallo. Lui-même, originaire du Libéria, il a dû faire face au racisme. Mais il a réussi à canaliser sa colère et son énergie grâce à la boxe. C'est donc naturellement sur le ring que cet ancien champion de boxe professionnel donne ses leçons de vie et ses conseils contre les dérives de l'extrémisme. C'est le reportage à Bruxelles de Lakshmi Lota.
En costume, il sort de réunion, mais très vite, l'homme politique se change et se transforme en boxeur, serviette sur l'épaule, sueur au front. Béa Diallo.
Honnêtement, c'est très difficile, effectivement, mais j'essaye de bloquer le mercredi. Je pense que j'ai besoin de partager. Ils attendent aussi ça, ils attendent aussi que je sois avec eux. Quand je suis pas là, souvent, voilà, ils sont déçus, donc j'essaye d'être présent au maximum et de leur apporter mon expérience et de partager avec eux.
En effet, une cinquantaine de personnes est venue assister à l'entraînement du mercredi avec le champion intercontinental des poids moyens, titre remporté à 6 reprises. Des hommes et des femmes de tous âges qui apprécient les conseils du boxeur.
La toute première fois que je suis venue, j'ai fait un cours avec lui. Et je suis pas revenue de la semaine parce que j'étais trop fatiguée. Mais après, au fur et à mesure, on s'habitue et c'est chouette, c'est vraiment addictif.
J'ai été faire ma petite recherche et j'ai vu que c'est un ex-champion de boxe, un champion du monde dans sa catégorie, que je pense le poids middleweight. Et franchement, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, c'était très inspirant pour nous et voilà, ça m'a encore encouragé plus à venir ici.
Parce que c'était un moyen de me défendre. Et que c'était plus sûr pour moi et aussi que j'avais envie de, enfin quand je serais plus grande, de savoir me défendre.
La boxe je fais depuis que je suis petit, c'est pas la première fois, je suis pas nouveau. La boxe c'est la vie quoi, c'est un mode de vie.
Allez les filles, allez, allez.
Cordes à sauter, quelques hypercutes données dans le vide et ils enfilent leurs gants. Béa Diallo vient corriger des postures, un mot d'encouragement pour le plus jeune qui a du mal à coordonner ses mouvements. C'est une histoire douloureuse qui a conduit Béa Diallo à la boxe.
J'avais 12 ans, je crois. On s'était fait tabasser effectivement par des skins parce qu'on revenait d'un grand concert à Paris. Et suite à cette bagarre, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'est retrouvé paralysé avec un œil en moins. Ça m'a traumatisé totalement. Et depuis ce jour-là, je suis devenu un garçon très violent. Une violence qui était plus une révolte qu'autre chose. Mais que je ne savais pas exprimer avec des mots, que j'exprimais plutôt par des gestes qui étaient assez violents. Et j'ai eu la chance un jour de rencontrer des amis qui étaient passionnés du sport et de la boxe en particulier. Quand je suis arrivé dans la salle de sport, je me suis rendu compte que cette violence avait moyen de la canaliser, d'en faire une vraie force en fait. Donc je suis devenu quelqu'un de beaucoup plus dynamique, beaucoup plus concentré, beaucoup moins violent. Quand j'ai su mettre des mots, j'avais plus besoin d'être violent.
Il a 15 ans lorsqu'il monte sur un ring pour la première fois. Son entraîneur d'alors, André Werber, se rappelle très bien dans quel état d'esprit se trouvait le jeune homme de l'époque.
Il est venu simplement parce que c'était un garçon difficile. Il était petit volontaire et pas bagarreur, mais enfin, il fallait pas l'embêter, quoi.
Et Béa Diallo monte sur le ring pour entraîner à présent des compétiteurs pour le match de samedi. Le gamin révolté, issu de l'immigration, est devenu champion, puis homme politique. Pour ces jeunes d'Ixelles, c'est un modèle.
C'est un bon exemple.
Il aide les jeunes, il a de la compassion. Il n'y a que les loups qui reconnaissent les loups, comme on dit.
C'est un modèle pour nous, surtout la communauté des immigrés ici. On voit un exemple vivant devant nous d'une personne qui vient d'ailleurs et qui fait, on va dire, son avenir ici. Et c'est une inspiration pour nous tous.
Un crochet du droit, un crochet du gauche, après les coups de poing, les coups de gueule. Des discussions s'engagent sur la radicalisation, le sentiment de rejet vécu par certains, la discrimination. Pour Béa Diallo, la boxe est nécessaire. Elle l'a sauvé lui-même et sans doute plusieurs jeunes qui auraient pu partir se battre en Syrie, selon le conseiller municipal et député.
Je pense qu'il y a certains jeunes qui ont besoin de modèles et puis ils ont surtout aussi besoin de reconnaissance. Et je crois que c'est ça. Ils vont parfois, il y a certains jeunes, cette reconnaissance, ils vont la chercher parfois à d'autres endroits. Et donc quand on est ici, on a beaucoup de discussions. Notamment, on discute sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui auraient pu partir dans ce sens-là, mais qui sont devenus champions de Belgique aujourd'hui, qui sont considérés dans leur sport, mais qui sont considérés aussi à l'extérieur. Et à côté de ce qu'ils ont pu accomplir à travers le sport, je leur ai montré qu'ils pouvaient faire accomplir la même chose à l'école. Si je peux le faire à la boxe, je peux le faire à l'école. Si je peux le faire à l'école, je peux le faire dans le boulot. Et je peux le faire dans la vie. Donc il n'y a pas de limite, en fait. Il ne faut pas se mettre de limite dans la vie. Et je leur dis, les gars, le racisme, il est là, il était là, et il existera toujours. Donc si vous devez rester là-dessus, vous ne ferez rien dans votre vie. Donc il faut essayer de surpasser ça et d'avancer.
Béa Diallo a compris qu'il fallait parfois prendre des gants pour parler aux jeunes de sa commune.
Darwin avait raison, je ne suis plus un primate. Si je suis à quatre pattes, c'est pour les relations.
Une coalition conservatrice contre la théorie scientifique de Darwin sur l'évolution, cela se passe en Serbie. Une pétition demande tout simplement de ne plus enseigner tout ce pan scientifique de notre histoire. Les orthodoxes ultra-conservateurs ont trouvé un allié de circonstance, un ancien religieux musulman devenu député. Les explications de Simon Rico.
Depuis plusieurs jours, une pétition fait polémique en Serbie. Adressée au ministère de l'Éducation ainsi qu'à plusieurs autres institutions du pays, celle-ci demande que toutes les références à la théorie de l'évolution de Darwin soient retirées des programmes scolaires et universitaires. Parmi les signataires, on trouve des académiciens et des professeurs d'université, mais aussi des médecins, des juristes, des philosophes et même des économistes, des artistes et des journalistes. Si cette initiative portée par les milieux les plus conservateurs de l'Église orthodoxe rencontre un certain écho populaire, elle a néanmoins peu de chances d'être suivie des faits. Elle a en tout cas reçu un soutien inattendu, celui du député Muammer Zukorlić, l'ancien moufti controversé de Novi Pazar. L'homme est bien connu en Serbie pour avoir favorisé l'implantation de l'islam radical et pour mener un train de vie d'oligarque. Il a publiquement déclaré qu'il voulait en discuter à la commission parlementaire sur l'éducation qu'il dirige depuis qu'il s'est opportunément rallié au SNS, le parti au pouvoir. Mais ses collègues de la commission ne sont pas tous sur la même ligne. Le député libéral-démocrate Žarko Korać a par exemple dénoncé un retour de l'inquisition. En 2004, la ministre de l'Éducation avait été contrainte à la démission après avoir évoqué la possible suppression dans les manuels scolaires serbes de la théorie de l'évolution. 12 ans plus tard, Liljana Čolić n'a pas changé d'avis sur la question. Elle a reconnu avoir signé la pétition avec plaisir, expliquant qu'en tant que chrétienne orthodoxe, la théorie de Darwin était une forme d'humiliation. Depuis la publication de cette pétition, de nombreuses voix en Serbie s'inquiètent d'un retour en arrière du débat scientifique sous la pression des milieux conservateurs de plus en plus puissants.
Aznar, Puyol, Bárcenas, Rato, Villarmir ou Esperanza Aguirre, compartiendo vinilo en el tramabús de Podemos. Hoy, de ruta por Madrid.
Hoy vamos a pasar por la sede del Partido Popular. 850...
À l'heure d'Internet, le parti espagnol d'ultra-gauche Podemos a choisi de faire campagne à l'ancienne, avec un bus qui sillonne le territoire et qui dénonce surtout la corruption qui gangrène le parti au pouvoir. À Madrid, François Musso.
Il y a un drôle de bus qui traverse toute l'Espagne. Ce n'est ni un bus de ligne régulière, ni un bus pour touristes ou hommes d'affaires triés sur le volet. C'est un bus politique, et plus exactement, c'est le bus du parti Podemos. Un bus bleu foncé qui parcourt de grosses villes comme Barcelone ou Valence, mais aussi des petites bourgades. Il s'arrête sur les marchés, près des grandes surfaces, dans les centres urbains, aux abords des places publiques. Il est massif, sur 2 étages, et des leaders politiques sont peints sur ce même bus. Pas ceux de Podemos, comme on aurait pu s'y attendre, mais des responsables du Parti conservateur, le Parti populaire, et plus particulièrement des personnalités ayant eu maille à partir avec la justice. Des personnalités mises en examen pour usage frauduleux de biens publics, pour financement illégal, ou pour détention de fonds placés dans des paradis fiscaux, entre autres délits. Certaines de ces personnalités ont été condamnées, d'autres sont sur le banc des accusés, mais pour Podemos, peu importe. Dans ce bus, des députés du parti, des militants aussi, sont là pour expliquer à qui veut bien les entendre comment ces gens-là se sont organisés pour, je cite, « piller les caisses publiques, s'enrichir sur le dos du contribuable et pour confondre, je cite toujours, le bien commun avec leurs intérêts personnels ». Le bus s'appelle le tramabus, car trama, cela signifie littéralement tram, réseau, machination, l'idée que les conservateurs au pouvoir s'organisent depuis longtemps pour voler allègrement dans le cadre de fracassantes affaires de corruption. Aux yeux de Podemos, ce bus est l'équivalent d'un organe de presse, mais à l'ancienne, qui parle directement au peuple. Pour les autres formations politiques, et surtout bien sûr pour le Parti populaire, c'est une façon démagogique et honteuse de livrer des coupables tout faits à la vindicte populaire.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.